L'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles. Avant-propos. L'ouvrage, dont nous présentons une édition augmentée, est un ensemble composite. La partie la plus étendue, savoir tous les chapitres qui vont jusqu'à la réforme exclusivement, a été rédigée il y a près d'un siècle par Adrien Ladrière à l'intention de la jeunesse. Le texte en parut mois par mois de 1887 à 1903 dans le périodique « La bonne nouvelle annoncée aux enfants » sous le titre « L'Église ou l'Assemblée, son histoire sur la terre ». L'auteur y exposait, dans un langage accessible à tous, les caractères essentiels de cette Église et retracer quelques circonstances marquantes de sa carrière. Il n'avait nullement pour objet une étude rigoureuse, ni une relation suivie et complète. Il voulait avant tout faire ressortir, au cours des siècles, la continuité de l'œuvre de Dieu en grâce face au travail décevant des hommes. A. Ladrière mourut en 1902, laissant cette esquisse inachevée. Ce qu'il avait publié fut édité en 3 tomes sous le même titre que dans La Bonne Nouvelle. Une continuation ne devait être donnée à ce travail qu'après plus de 30 ans par un 4e tome qui parut en 1937. La réforme avec ses suites y était traitée par le professeur Édouard Recordon et un important chapitre terminal dû à Philippe Tapernoux. Dégager les grandes lignes depuis la fin du XVIIIe siècle. L'œuvre ainsi complétée fit en 1959 l'objet d'une nouvelle édition en 2 volumes sous un titre légèrement modifié, L'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles. La présente édition n'apporte que peu ou pas de retouches au plus grand nombre de chapitres. On a estimé préférable de laisser à peu près intact le texte de A. Ladrière, malgré soit des longueurs, soit des lacunes auxquelles des lecteurs peuvent être sensibles. Son cachet de simplicité et de ferveur, son insistance, pleine de sérieux et d'affection, sur les vérités fondamentales du christianisme, sont propres à toucher et à instruire bien d'autres que les enfants auquel il était destiné. Il a paru, en revanche, utile de faire du dernier chapitre une partie distincte. Tout en respectant la structure, le fond et une grande partie du texte, nous avons insisté un peu plus sur la grande action de réveil opérée par l'Esprit de Dieu dans la première moitié du XIXe siècle et qui correspond, à n'en pas douter, au cri de minuit de Matthieu 25. Pas plus que dans le reste du livre, on ne cherchera là une histoire au sens rigoureux du terme. Les faits en seraient d'ailleurs difficiles à rassembler. Du moins, pourra-t-on tenir pour assuré qu'il a été fait appel au plus grand nombre possible de sources offrant les plus sérieuses garanties. Le caractère même de cet ouvrage impliquer que les références bibliographiques soient réduites à l'extrême. Les lecteurs curieux du passé regretteront de ne pas avoir plus de détails sur les ouvriers que le Seigneur employa alors, et, certes, nous avons à nous souvenir de nos conducteurs. Mais notre but essentiel a été d'aider quiconque cherche la vérité à mieux saisir l'importance et le sens de ce que Dieu opéra par eux. Nous pensons surtout aux jeunes générations de croyants, désirant les voir prendre pleinement conscience du témoignage de notre Seigneur, qu'à leur tour elles sont appelées à porter en attendant sa prochaine venue. Dieu veuille bénir, à cet effet, ce trop succinct exposé de la façon dont nos devanciers ont été amenés à prendre la place que la parole de Dieu leur indiquait. Quelques extraits de leurs lettres et publications que nous donnons ensuite permettront de prendre avec ceux du tout début un contact plus étroit que ne le feraient bien des biographies. Pour la période tout à fait récente, on s'est borné à un bref appendice, simple coup d'œil sur l'état de la chrétienté dans les temps où tout semble dire aux fidèles « Le Seigneur vient ». Août 1971, André Gibert. L'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles. Les premiers siècles. Première partie, les temps apostoliques. Premier siècle. Ce qu'est l'Église. Le Nouveau Testament nous raconte l'histoire de celui qui vint du ciel sur la terre et fut ici-bas d'abord un petit enfant dans la faiblesse et la pauvreté, puis un homme rempli de grâce et de bonté, faisant du bien à tous, mais qui fut méconnu, méprisé, rejeté, accablé d'opprobre, et enfin cloué sur une croix où il mourut. C'était Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, venu pour nous sauver par ses souffrances et sa mort. Dieu le ressuscita d'entre les morts, puis il monta au ciel. Ce Jésus reviendra. Il prendra d'abord ses rachetés auprès de lui, puis il établira son royaume sur la terre. Cette merveilleuse histoire se continue jusqu'au moment où le Seigneur Jésus remet le royaume à son Père, après que les morts ont été jugés devant le grand trône blanc. Alors, il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre où Dieu habite au milieu des bienheureux, et c'est pour l'éternité. Je désire maintenant retracer une autre histoire, l'histoire d'une chose bien précieuse au Seigneur Jésus, et qui lui sera précieuse à jamais, c'est celle de l'Église ou l'Assemblée, car ces deux mots ont la même signification. L'apôtre Paul dit « Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Il la nourrit et la chérit. » Éphésiens 5, versets 25 et 29. Ces paroles nous montrent bien, n'est-ce pas, de quel prix est l'Église pour le cœur de Christ. Lui-même la compare à une perle de très grand prix, et il nous dit que, pour l'acquérir, il a vendu tout ce qu'il avait, c'est-à-dire qu'il a renoncé à tout, même à sa propre vie. Matthieu 13, versets 45-46.
Encore le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta.
Avant tout, nous avons à résoudre la question « qu'est-ce que l'Église ?» On nomme Église des édifices dans lesquels on se rassemble pour un service religieux. Mais nous ne trouvons pas ce nom ainsi appliqué dans la parole de Dieu. On appelle encore Église des ensembles de personnes qui ont les mêmes idées religieuses, les mêmes formes de culte et sont régies, dans ce but, par les mêmes règles. Ainsi, on dit l'Église anglicane, l'Église baptiste, etc. Mais l'Écriture ne parle de rien de semblable. Comme je le disais plus haut, le mot « église » signifie « assemblée », et dans la bouche du Seigneur, comme dans les écrits des apôtres, cette expression désigne ou bien l'ensemble de tous les vrais croyants en tout lieu à un moment donné sur la terre, ou bien l'ensemble de tous les saints ressuscités ou transmués et glorifiés depuis la Pentecôte jusqu'au retour de Christ. C'est alors l'assemblée complète. Ou bien encore, l'ensemble des chrétiens qui se réunissaient dans une localité. Par exemple, quand l'apôtre Paul écrit à l'Église ou l'Assemblée de Dieu qui est à Corinthe, il s'adresse à tous les chrétiens de Corinthe. Lorsqu'il recommande de saluer l'Église ou l'Assemblée qui se réunit chez Nymphas ou chez Philémon, il parle des chrétiens qui s'assemblaient chez l'un ou l'autre de ses frères pour le culte. Mais quand il dit « Christ a aimé l'assemblée », c'est l'assemblée complète. Et lorsqu'il exhorte les anciens à paître, l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils, il veut dire tous les vrais croyants, lavés de leurs péchés dans le précieux sang de Christ, mais encore sur la terre. Vous penserez peut-être qu'Abel, Noé, Abraham, Moïse, David, les prophètes, tous ces saints hommes faisaient partie de l'Église. Non, l'Église n'existait pas alors. C'était des justes qui croyaient Dieu et allaient leur chemin sur la terre en se confiant en lui et en ses promesses. Mais ils n'étaient pas de l'Église. Dieu a eu sur la terre un peuple qu'il a choisi du milieu des autres nations, qu'il aime toujours et qu'il rétablira dans le pays de la promesse, Israël. Mais Israël n'est pas l'Église. L'Église n'a jamais été nommée avant que le Seigneur en eût parlé, quand il dit à Pierre « Je bâtirai mon assemblée » Matthieu 16, verset 18. Elle est donc à lui. Mais elle n'était pas commencée. Ce n'est qu'après sa mort sur la croix et son entrée dans la gloire que l'Église a pris naissance, et ce fut le jour de la Pentecôte, quand, selon la promesse de Jésus, le Saint-Esprit fut descendu du ciel sur les disciples. C'est à l'apôtre Paul que Dieu a donné ensuite la révélation de tous les privilèges de l'Église. Auparavant, c'était un mystère caché dès les siècles en Dieu. Éphésiens 3, verset 9, Colossiens 1, verset 26. Les saints et les prophètes de l'Ancien Testament ne le connaissaient pas. L'Église est une assemblée céleste que Dieu voulait avoir pour son Fils bien-aimé. Elle est appelée l'Assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre Fils. Elle se compose de ceux qui, ayant cru en Jésus mort, ressuscité et glorifié, sont lavés dans son sang. Ceux-là sont nés de Dieu. Dieu leur donne son Saint-Esprit. Ils sont ainsi unis les uns aux autres et à Christ dans le ciel, ayant tous la même vie que ce précieux Sauveur. Voilà pourquoi l'Église est appelée le corps de Christ, lui-même en étant la tête. Chaque croyant est un membre de ce corps. Ce lien ne saurait être rompu. C'est celui d'une vie céleste et impérissable, d'une vie qui est celle de Christ même. La parole de Dieu nous dit que le corps de Christ, ainsi formé par le Saint-Esprit, est un. Il n'y a qu'un seul corps, comme il n'y a qu'un seul esprit qui forme et anime le corps, et comme il n'y a aussi qu'une seule espérance pour tous les croyants, celle d'être avec le Seigneur dans le ciel. Alors le corps de Christ aura atteint la perfection. L'Église est aussi appelée la maison de Dieu. Elle est l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit qui y demeure et y manifeste sa présence. Elle est ainsi un temple saint qui s'élève et qui sera achevé et parfait dans la gloire. 1 Timothée 3, verset 15.
Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité.
Éphésiens 2, versets 20 à 22.
La maison de Dieu ayant été édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice, bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit.
1 Corinthiens 3, versets 16 et 17.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel vous êtes.
Dieu n'a pas maintenant d'autre maison, d'autre temple sur la terre où il soit adoré, bien que le corps de chaque croyant, parce que le Saint-Esprit y habite, soit aussi appelé un temple. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps.
Nous avons vu que le Seigneur Jésus est celui qui bâtit cette maison de Dieu, l'Assemblée. Mais toute maison est posée sur un fondement. Quel est celui de l'Église ? Un roc inébranlable, Jésus lui-même. Il est le seul fondement qui puisse être posé. 1 Corinthiens 3, verset 11.
Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ.
Car Simon-Pierre, instruit par le Père, eut fait cette belle confession, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », le Seigneur lui dit que, sur ce roc, cette vérité que Dieu avait révélée à Pierre, il bâtirait son assemblée. Matthieu 16, versets 16 à 18.
Et Simon-Pierre répondant dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus répondant lui dit, « Tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. »
Et que voulaient dire les paroles de Pierre ? C'est qu'en Christ, le Fils du Dieu vivant était la puissance de la vie de Dieu contre laquelle la mort et Satan, qui a le pouvoir de la mort, ne peuvent absolument rien. Hébreux 2, verset 14.
Puis donc que les enfants tuent part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que, par la mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable.
Et le Seigneur déclare que la puissance de la mort et de Satan ne pourrait rien contre l'Église établie sur ce roc. Elle est vivante et indestructible comme celui sur qui elle est fondée. Quelle sécurité pour ceux qui en font partie. L'apôtre Pierre, à qui avaient été adressées les paroles que le Seigneur prononce relativement à l'Église, et qui se rappelle avec tant d'affection tout ce qui était sorti de la bouche du Sauveur qu'il aimait, compare ceux qui croient en Christ et se confient en lui à des pierres vivantes qui s'approchent du Seigneur et sont posées sur lui, la maîtresse pierre de l'angle vivante, élue et précieuse aux yeux de Dieu. 1 Pierre 2, versets 4 à 6.
Duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par ce qu'on trouve dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une maîtresse pierre de coin, élue, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus.
Ils sont unis à lui par le lien indestructible de la vie de Dieu, et c'est ainsi que s'élève la maison de Dieu. La parole de Dieu présente aussi l'Église comme l'épouse de Christ. Éphésiens 5, versets 24 à 27.
Mais comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable.
Dieu avait donné Ève pour aide au premier homme, Adam. Et de même au second homme, Christ, il donne l'Église. Nous lisons dans la Genèse la belle histoire du serviteur d'Abraham qui alla au loin chercher une épouse pour Isaac. Genèse chapitre 24. De la même manière, le Saint-Esprit vient chercher maintenant sur la terre une épouse pour Christ, et c'est l'Église. Il la forme de tous ceux qui, en croyant au Seigneur Jésus, abandonne le monde comme Rebecca sa patrie pour s'attacher à Christ seul. C'est pour nous montrer combien elle est étroitement unie au Seigneur et combien elle lui est chère que l'Église est représentée comme son épouse et est appelée la femme de l'agneau. Il la prépare maintenant pour lui-même, nous est-il dit. Il la sanctifie et la purifie pour se la présenter un jour glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Et quand sera-ce? Dans le ciel, quand, avec les transports d'une joie et d'une allégresse sans égale, les noces de l'agneau seront célébrées. Apocalypse 19, versets 7 à 9.
Réjouissons-nous et tressaillons de joie, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin ce sont les justices des saints. Et il me dit, écris, bienheureux ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont ici les véritables paroles de Dieu.
Quel ravissement, heureux ceux qui seront là et y prendront part. C'est en pensant à ce bonheur que l'Esprit et l'Épouse disent au Seigneur Jésus, viens. Et lui qui aime l'Église répond avec tendresse, je viens bientôt. Enfin, l'Église est aussi représentée comme une cité céleste et glorieuse. Apocalypse 21, versets 9 à 17.
Et l'un des sept anges qui avait eu les sept coupes pleines des sept dernières plaies vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son luminaire était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elle, qui sont ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes, et au nord, 3 portes, et au midi, 3 portes, et à l'occident, 3 portes. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Et celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or pour mesurer la cité, et ses portes et sa muraille. Et la cité est bâtie en carré, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Et il mesura la cité avec le roseau jusqu'à 12 000 stades. Sa longueur et sa largeur et sa hauteur étaient égales, et il mesura sa muraille 144 coudées, mesure d'homme, c'est-à-dire d'ange.
Mais elle ne sera telle que dans l'avenir, quand Christ aura établi son royaume. Maintenant, c'est pour l'Église le temps de l'humiliation et de la souffrance avec Christ et pour Christ. Mais alors la gloire de Dieu l'illuminera et fera resplendir sa beauté. Le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. Elle sera le siège de l'autorité de celui qui, autrefois couronné d'épines et crucifié, régnera alors sur l'univers, et elle régnera avec lui. Ne vaut-il pas la peine de souffrir pour Christ en ayant l'espoir de régner avec lui? Voilà comment la parole de Dieu nous présente l'Église. Elle nous dit aussi qu'elle durera éternellement. Quand les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite auront été établis, l'Église, sur cette nouvelle terre, sera l'habitation de Dieu au milieu des hommes sauvés. Apocalypse 21, versets 1 à 4.
Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés et la mer n'est plus. Et je vis la sainte cité nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari, et jouis une grande voix venant du ciel, disant, « Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées.
Quelle glorieuse perspective pour les croyants d'être là dans cette éternité bienheureuse. Mais cette Église aimée de Dieu est destinée à la gloire céleste et sur la terre. Elle doit y être le témoin de Christ pendant que celui-ci est en haut, y faire briller la lumière céleste de la grâce et de la vérité, y marcher comme son Seigneur y a marché. Nous verrons ensemble son histoire comme la retrace la parole de Dieu, soit dans ce que nous en raconte le livre des Actes, soit dans ce que nous en disent les épîtres de l'Apocalypse. Ensuite, nous poursuivrons cette histoire telle que nous la trouvons dans les faits qui nous sont rapportés dans les documents humains, et nous apprendrons ainsi si elle a répondu à sa glorieuse vocation. Commencement de l'Église. Nous avons vu ce qu'est l'Église, si précieuse au Seigneur Jésus. Nous parlerons maintenant de sa naissance, c'est-à-dire de son commencement sur la terre. Elle ne pouvait pas commencer avant que le Seigneur eût accompli son œuvre de grâce sur la croix, avant qu'il se fût livré pour elle, avant qu'elle eût été acquise par son précieux sang. Il fallait aussi que, par sa résurrection d'entre les morts, il eût été démontré qu'il était le Fils du Dieu vivant, la pierre vivante sur laquelle la maison de Dieu, l'assemblée du Dieu vivant, devait être fondée. Et enfin, il était nécessaire, avant que l'Église pût commencer son existence, que le Seigneur Jésus fût monté au ciel auprès de son Père pour envoyer de là le Saint-Esprit promis. Avant de souffrir, le Seigneur Jésus avait promis à ses bien-aimés disciples que le Père, après son départ, leur enverrait le Saint-Esprit, le Consolateur, pour être avec eux éternellement. Jean 14, versets 16, 17 et 26.
Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur pour être avec vous éternellement. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites.
Jean 15, verset 26.
Mais quand le Consolateur sera venu, lequel moi je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là rendra témoignage de moi.
Et Jean 16, versets 7 et 13.
Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver.
Nous savons aussi qu'après être sorti du tombeau, le Sauveur resta encore 40 jours sur la terre avec ceux qu'il aimait si tendrement, leur parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Mais le moment de remonter vers son Père était venu, et avant de quitter ceux qu'il laissait ici-bas, les ayant conduits hors de Jérusalem, il leur renouvela la promesse de leur envoyer le Saint-Esprit, leur recommandant de ne pas quitter Jérusalem avant que cette promesse fût accomplie. Puis, comme il les bénissait, il fut élevé au ciel, une nuée le reçut, et il disparut de devant leurs yeux. Il était allé dans la maison du Père, il était allé s'asseoir à la droite de Dieu. C'est là qu'est maintenant notre précieux Sauveur, c'est là qu'il s'occupe de nous avec amour, c'est là qu'il attend le moment de venir chercher ses bien-aimés, pour les introduire dans ce lieu de repos et de bonheur qu'il leur a préparé. Les apôtres retournèrent donc à Jérusalem dans la chambre haute où ils demeuraient. C'est là que se réunissaient avec eux les disciples, parmi lesquels se trouvaient les femmes qui avaient suivi Jésus sur la terre, qui l'avaient vu crucifié et mettre au tombeau, et qui, étant venues pour l'embaumer, l'avaient vu ressuscité. Avec eux, il y avait aussi Marie, la mère de Jésus, et ses frères qui, durant sa vie, ne croyaient pas en lui. Quelle heureuse compagnie que celle qui se trouvait assemblée dans cette chambre haute. Point de savants, ni de riches, ni de grands de ce monde. C'étaient de pauvres pécheurs, des péagers et d'humbles femmes, mais c'étaient des croyants sauvés, des bien-aimés de Christ, aimés du Père comme Jésus lui-même. Ils attendaient, comme Jésus le leur avait recommandé, et, en attendant, que faisaient-ils? Ils persévéraient d'un commun accord dans la prière, demandant sans nul doute au nom de Jésus que le Père accomplisse sa promesse. Bien que Dieu ne perde jamais de vue ce qu'il nous promet, il aime que nous le lui demandions. Ils n'eurent pas longtemps à attendre, seulement 10 jours. Une des grandes fêtes des Juifs était arrivée, celle de la Pentecôte. C'était un des 3 jours solennels que Dieu avait lui-même établis dans l'année, et dans lesquels il aimait à rassembler son peuple autour de lui. Deutéronome 16, verset 16.
3 fois l'an, tout mâle d'entre vous paraîtra devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, et à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles, et on ne paraîtra pas devant l'Éternel à vide.
Les 2 autres fêtes étaient celles de la Pâque et des tabernacles. La Pentecôte était entre les deux, environ 50 jours après la Pâque. Une foule de Juifs de toutes nations était venue à cette occasion à Jérusalem. Des prosélytes, c'est-à-dire des étrangers désireux d'adopter la religion juive, les avaient accompagnés, et cette multitude remplissait la ville. Au milieu du bruit et du mouvement que produit toujours un grand concours de monde, il y avait une chambre retirée et paisible, cette chambre haute où se trouvaient réunies environ 120 personnes, celles dont nous avons parlé, dans une même pensée et dans une même attente. C'était une bien petite compagnie en comparaison de la multitude qui se pressait dans Jérusalem. Mais c'est sur ces quelques personnes assemblées que les regards de Dieu étaient en ce moment arrêtés avec amour. Cela ne veut pas dire que Dieu n'aima pas les autres, et qu'il n'y eut pas dans cette grande foule venue pour la fête des âmes pieuses, sincères, et qui étaient agréables à Dieu. Mais là, tous ensemble, dans un même lieu, étaient ceux qui avaient cru à Jésus, qui s'étaient attachés à lui, et l'avaient suivi, et le Père les aimait, car il aime ceux qui aiment son Fils, et il allait accomplir envers eux sa précieuse promesse. Les disciples du Sauveur étaient donc rassemblés, occupés sans doute à prier, lorsque tout à coup se fit entendre du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux, qui remplit toute la maison où ils se trouvaient. Et des langues, comme de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et vinrent se poser sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ainsi que s'accomplit la promesse du Père. Jésus avait reçu en haut de son Père le Saint-Esprit et l'avait envoyé à ses disciples. L'assemblée, l'Église, était commencée. Les croyants, déjà enfants de Dieu, étaient maintenant unis ensemble par ce lien du même Esprit que chacun avait reçu. Dieu avait sa maison sur la terre, son habitation, où il était venu établir sa demeure par son esprit. Ce n'était plus, comme le temple à Jérusalem, une maison de pierre. Celle-là était mise de côté. C'était une maison composée de pierres vivantes posées sur Christ, et de même que Dieu était venu autrefois dans le tabernacle et le temple au milieu de son peuple, mais dans une nuée, maintenant, il venait dans un temple vivant pour y demeurer. Quelle grande et merveilleuse chose! Et c'était alors aussi que le corps de Christ se formait de ses membres, c'est-à-dire de ceux qui croyaient en lui et qui étaient remplis du Saint-Esprit. Alors encore l'épouse de Christ qu'il chérit, mais qui ne sera manifestée que dans la gloire, commençait son existence sous l'action de l'Esprit-Saint et son voyage à travers le monde sous la conduite d'Éliézer. Ce n'était pas une nuée qui était venue comme au temps des Israélites, mais une puissance du ciel qui remplissait les croyants, une puissance, celle de la parole divine qui, de même qu'un feu, pénétrait les âmes et jugeait tout ce qui n'était pas de Dieu. Que voulait dire ce fait que les disciples baptisés du Saint-Esprit parlaient des langues étrangères? C'était une marque de la puissance de l'Esprit de Dieu en eux, qui devait frapper de la manière la plus forte ceux qui en seraient les témoins, comme nous les verrons. C'était aussi une manifestation de la grâce de Dieu, qui s'élevait au-dessus des barrières que le péché avait élevées et qui venait s'adresser à tous les peuples. Autrefois, les hommes voulurent ériger la tour de Babel pour n'être pas dispersés sur la terre. Leur orgueil insensé fit que l'Éternel confondit leur langage. Que de mots résultèrent de ce péché, mots tels que la séparation et la haine de nation à nation. La grâce de Dieu s'adresse maintenant à tous les hommes pour les unir dans la foi et l'amour d'un même Sauveur, et c'est pour les y appeler qu'elle distribuait aux disciples, par le Saint-Esprit, ces langues diverses afin de parler à chacun de quelque nation qu'il fût. Les premières prédications. L'Église était fondée, Dieu avait maintenant sur la terre une habitation formée de pierres vivantes, un temple où il était présent. Mais l'Église ne devait pas se limiter à ces quelques personnes. Le Seigneur Jésus avait dit, en parlant du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Jean 7, versets 38 et 39. C'est-à-dire qu'après avoir été bénis, eux-mêmes répandraient la bénédiction. Quel privilège de devenir comme des canaux qui communiquent la grâce de Dieu. Chacun de ceux qui croient en Jésus, si jeune soit-il, peut jouir de ce privilège. Le Seigneur voulait que les disciples fussent ces canaux de bénédiction, des ouvriers pour édifier l'Église. Aussi, avant de remonter au ciel, il leur avait commandé de prêcher la repentance et la rémission des péchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Luc 24, verset 47.
Que la repentance et la rémission des péchés fussent prêchées en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem.
Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Il envoyait d'abord le message de la grâce à ce méchant peuple qui l'avait rejeté et crucifié. Quel amour et quelle patience il y a dans son cœur! Voici ce qui donna lieu à la première prédication. Le Saint-Esprit, descendu sur les disciples, les avait remplis d'une puissance merveilleuse, leur donnant l'intelligence des choses de Dieu et la faculté de les exprimer en diverses langues. Le Seigneur avait dit à ses apôtres, « Le Saint-Esprit venant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Ils ne pouvaient donc cacher ce qu'ils avaient reçu, et le bruit de cet événement extraordinaire se répandit bientôt. Comme nous l'avons vu, une multitude de Juifs, hommes pieux, étaient venus de tout pays pour célébrer la fête de la Pentecôte. À l'ouïe de ce qui arrivait, ils s'assemblèrent, ainsi que ceux qui habitaient Jérusalem, pour entendre les apôtres et les disciples. et ils furent frappés de surprise en voyant ces hommes illettrés parler en diverses langues des choses magnifiques de Dieu. L'effet produit ne fut pas le même chez tous. Les uns, ceux sans doute qui comprenaient les langues, s'étonnaient et se demandaient « Que veut dire ceci ?» Tandis que d'autres, peut-être les habitants de Jérusalem, qui n'avaient pas cru Jésus, ne comprenant pas les apôtres et les disciples, se moquaient d'eux, et, remplis de cette malveillance qu'il leur avait fait dire autrefois de Jésus qu'il était possédé du démon, ils accusaient les serviteurs de Christ d'être ivres. Alors Pierre, dans la puissance du Saint-Esprit, s'adressa d'abord aux moqueurs. Il leur dit que ces merveilles dont ils étaient témoins étaient l'accomplissement d'une prophétie de Joël concernant les derniers jours. Dieu avait dit par ce prophète « Je répandrai de mon esprit, avant que vienne la grande et éclatante journée du Seigneur. Cette journée est celle du terrible jugement qui doit frapper la terre. Mais avant qu'elle vînt pour les Juifs incrédules, Dieu leur faisait entendre la parole de grâce par la bouche de Pierre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Après cela, Pierre s'adressa à tous et leur annonça Jésus, la vie sainte et pure du Sauveur, remplie d'actes et de miracles d'amour, avait été bien connue parmi les Juifs comme étant approuvée de Dieu. Et cependant, leur dit Pierre avec hardiesse, vous l'avez cloué à une croix et vous l'avez fait périr par la main d'hommes iniques. Puis il leur déclare que Dieu l'avait fait sortir du tombeau et que les apôtres l'avaient vu ressuscité, comme les Écritures l'annonçaient du Messie. Ensuite, Dieu l'avait exalté dans le ciel et fait asseoir à sa droite, mettant ainsi sur Jésus le sceau de son approbation, et c'était du ciel que Jésus avait envoyé le Saint-Esprit qui accomplissait les merveilles dont les Juifs étaient témoins. Pierre termine son discours en disant que toute la maison d'Israël donc sache certainement que Dieu a fait et Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Il place ainsi sur leur conscience le crime affreux dont ils s'étaient rendus coupables en rejetant et mettant à mort celui que Dieu avait envoyé vers eux dans son amour. Quel courage chez Pierre! Quelle différence avec ce Pierre qui, peu de jours auparavant, avait trois fois renié son maître. C'était l'Esprit-Saint qui lui donnait cette hardiesse et qui donne aussi à tout croyant la force de confesser Jésus. Le même Esprit agit avec puissance dans les cœurs d'un grand nombre de ceux qui écoutaient. Ils virent toute la grandeur du péché qu'ils avaient commis en rejetant Jésus. Ils se sentirent perdus, et, le cœur transpercé de douleur, ils s'écrièrent « Que ferons-nous ? » Dieu ne laisse jamais un pareil cri sans réponse. Le même Jésus qu'ils avaient crucifié était celui vers lequel ils devaient se tourner pour être sauvés, et Pierre leur dit « Repentez-vous », c'est-à-dire « Convertissez-vous, tournez-vous vers Jésus ». Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés. Être baptisé au nom de Jésus, c'était déclarer que l'on croyait en lui et que l'on s'attachait à sa personne, et alors on recevait la rémission ou le pardon de ses péchés. Et il en est de même aujourd'hui, c'est par Jésus, en croyant en lui, que l'on est pardonné. Mais Pierre annonce quelque chose de plus à ceux qui croiraient. « Vous recevrez, dit-il, le don du Saint-Esprit. Ainsi, lorsqu'on se repent de ses péchés et que l'on croit au Seigneur Jésus, Dieu nous pardonne et, de plus, met son Esprit en nous. On fait alors partie de l'Église de Christ, de l'Assemblée de Dieu. » Pierre pressa ses auditeurs, les conjurant de croire en Jésus et de se séparer aussi du peuple juif incrédule et pervers, sur lequel le jugement allait tomber. Le résultat fut aussi grand que beau. 3000 personnes crurent et furent baptisées. Elles reçurent le Saint-Esprit et furent ajoutées à l'Église. Il en est de même aujourd'hui. Quand quelqu'un croit en Jésus et reçoit le Saint-Esprit, il est séparé du monde et ajouté à l'Église du Dieu vivant. Ainsi Pierre ouvrit aux Juifs les portes du royaume des cieux. Une note en bas de page. Le Seigneur avait dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Matthieu 16, verset 19. Reprise de l'esquisse. L'œuvre de la grâce continua à s'étendre par le moyen des apôtres qui accomplissaient beaucoup de miracles et de prodiges, et aussi par la vue de la vie sainte des premiers chrétiens. Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Bientôt Dieu, dans sa grâce, fit adresser un nouvel appel à la nation juive. Voici quelle en fut l'occasion. Les premiers chrétiens, sortis du milieu des Juifs, suivaient encore toutes les ordonnances de la loi de Moïse et tout le culte juif. Ainsi, ils étaient assidus à se rendre au temple, qu'ils regardaient toujours comme la maison de Dieu. Comme les apôtres Pierre et Jean y allaient un jour ensemble, à l'heure de la prière, ils guérirent, au nom du Seigneur Jésus, un homme qui était boiteux dès sa naissance. Tout le peuple le connaissait, car chaque jour on l'apportait à la principale porte du temple, où il demandait l'aumône à ceux qui entraient. Quelle surprise, quand on vit cet impotent, tout à coup guéri, entrer avec les apôtres dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. La foule, remplie d'admiration, accourut et entoura Pierre et Jean. C'était dans ce même portique de Salomon que Jésus, durant sa vie sur la terre, avait parlé aux Juifs de ses brebis, de la vie éternelle qu'il donne, et de son Père avec lequel il est un. Les Juifs alors avaient voulu le lapider. Jean 10, versets 23 à 31.
Et Jésus se promenait dans le temple au portique de Salomon. Les Juifs donc l'environnèrent et lui dirent, « Jusques à quand tiens-tu notre âme en suspens? Si toi, tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que moi je fais au nom de mon Père, celles-ci rendent témoignage de moi. Mais vous, vous ne croyez pas. Car vous n'êtes pas de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Les Juifs, donc, levèrent encore des pierres pour le lapider.
Ils ne croyaient pas en lui. Maintenant, en ce même lieu, la puissance du nom de Jésus venait de se manifester, et la foule étonnée entourait les apôtres. Mais les serviteurs de Dieu ne désirent pas que l'attention se porte sur eux. Ils ont à cœur que les regards des pécheurs se tournent vers celui qui seul peut sauver et à qui appartient toute gloire. Aussi Pierre se hâte-t-il de dire au peuple que ce n'était ni leur puissance, à lui et à Jean, ni leur piété qui avait guéri cet homme, mais la puissance du nom de Jésus auquel il croyait. « Ce Jésus, dit-il aux Juifs, est le serviteur de Dieu, le saint et le juste que vous avez livré et renié, c'est le prince de la vie que vous avez mis à mort. Mais Dieu l'a ressuscité. » Est placé dans la gloire, et c'est par la foi en lui que cet homme a été guéri. Nous voyons que c'est vers Jésus que Pierre cherche à tourner les cœurs de ceux qui l'écoutent. Aussi, après leur avoir montré leurs crimes, il les exhorte à se repentir et à se convertir pour que leurs péchés soient effacés, et il leur annonce qu'en le faisant, ils jouiraient des bénédictions promises à Abraham leur père et renouvelées par tous les prophètes, mais que le jugement tomberait sur quiconque n'écouterait pas Jésus, que Dieu avait envoyé pour les bénir, en détournant chacun d'eux de leur méchanceté. L'effet produit par ces paroles fut merveilleux. Un grand nombre crurent et se tournèrent vers Jésus. 5000 personnes furent ajoutées à l'assemblée. C'est ainsi que l'édifice grandissait. Puisse chacun de nos lecteurs croire aussi en ce Jésus, venu du ciel pour nous bénir et nous détourner de notre méchanceté, et ils auront le bonheur d'être ajoutés, comme des pierres vivantes, à ce temple saint qui s'élève dans le Seigneur. Les premières persécutions. L'Église s'accroissait rapidement à Jérusalem. Des multitudes croyaient en Jésus et étaient sauvées. Mais c'était une chose que Satan, l'ennemi de Dieu et des hommes, ne pouvait souffrir. Et pour s'y opposer, il souleva contre les apôtres la haine des chefs du peuple juif. Le Seigneur Jésus, avant de quitter ses disciples, les avait avertis que, de même que lui avait été haï et persécuté dans le monde, eux le seraient aussi à cause de son nom. Jean 15, versets 18 à 20.
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
C'est à quoi tout fidèle chrétien doit s'attendre. Le commandant du temple, les sacrificateurs et les sadducéens survinrent pendant que Pierre et Jean parlaient au peuple et les jetèrent en prison. Pour quelle raison? Quel mal avaient-ils fait? Aucun. Mais les apôtres annonçaient la résurrection d'entre les morts par Jésus. Or les sadducéens, au contraire, disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. C'était des gens comme il y en a tant de nos jours, qui affirment qu'avec cette vie tout est fini, et qu'ainsi l'homme n'est pas plus que les bêtes qui périssent. Quelle triste chose de voir les sacrificateurs, les chefs religieux du peuple, s'associer à de tels gens. C'est qu'ils haïssaient le nom de Jésus. Dieu se servit de l'aveuglement même des chefs du peuple pour que les apôtres pussent rendre solennellement témoignage à ce nom de Jésus devant eux. Après les avoir gardés toute la nuit en prison, les chefs, les anciens, les savants scribes, les principaux sacrificateurs s'assemblèrent et se firent amener Pierre et Jean. Quelle assemblée imposante! N'y avait-il pas de quoi être intimidé en paraissant devant elle? Pierre et Jean, des pécheurs, des hommes du commun et sans éducation, oseront-ils ouvrir la bouche? Certainement, ils ne craignent rien, car le Seigneur, pour qui ils souffrent, est avec eux par son esprit. Pierre et Jean se rappelaient les paroles de leur maître lorsqu'il leur disait « Quand ils vous mèneront devant les synagogues et les magistrats et les autorités, ne soyez pas en souci comment ou quelle chose vous répondrez ou de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront répondre ou résister. » Luc 12, versets 11, 12 et 21, verset 15. Pierre et Jean firent l'expérience de la fidélité du Seigneur. On leur demandait en quel nom ils avaient guéri l'impotent, et Pierre, rempli du Saint-Esprit et de hardiesse, leur répond que c'est au nom de Jésus de Nazareth que les chefs du peuple avaient crucifié, mais que Dieu avait ressuscité d'entre les morts. Pierre insiste, comme on le voit, sur la résurrection de Jésus. C'est qu'elle est le gage de notre salut, et la reconnaissance solennelle de la part de Dieu que Jésus est son Fils. Aussi Pierre ajouta-t-il que c'est Jésus qui est le fondement du salut et que son nom est le seul nom donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. La sainte hardiesse que montraient Pierre et Jean frappa beaucoup le Sanhédrin, c'est-à-dire l'assemblée des chefs du peuple. Ils voyaient que c'étaient des hommes qui n'avaient point fait d'études. Comment donc pouvaient-ils répondre ainsi? C'est que Pierre et Jean avaient été à l'école de la vraie sagesse sous un maître divin. Ils avaient été avec Jésus, et c'est ce que le Sanhédrin était forcé de reconnaître. Si nous voulons aussi devenir vraiment sages, écoutons Jésus qui nous dit « Apprenez de moi ». Ainsi, les chefs du peuple étaient forcés de rendre hommage, malgré eux, à ce nom de Jésus qu'ils détestaient. D'ailleurs, l'homme guéri était là devant eux, de sorte qu'ils n'avaient rien à opposer. Mais rien ne touchait leur cœur endurci. Ils défendirent aux apôtres avec menace de parler au nom de Jésus. Est-ce que Pierre et Jean pouvaient leur obéir? L'autorité des hommes est-elle plus grande que celle de Dieu? Évidemment non. Le Seigneur les avait envoyés prêcher en son nom. Ils ne pouvaient qu'obéir au Seigneur. Aussi répondirent-ils, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. Puissions-nous être fidèles comme Pierre et Jean. » Ayant été relâchés, ils se rendirent vers leurs frères, les autres disciples, et leur racontèrent tout ce que le Sanhédrin leur avait dit. Que firent alors ces humbles chrétiens? Furent-ils remplis de crainte? Résolurent-ils d'être plus prudents à l'avenir et de ne plus parler aussi ouvertement? Non. Ils savaient bien qu'en eux-mêmes, il n'y avait aucune force, mais ils savaient que c'était l'œuvre de Dieu à laquelle ils travaillaient. C'est pourquoi, d'un commun accord, ils élevèrent leurs voix à Dieu et portent tout devant lui. Ils lui demandent de leur donner la hardiesse pour continuer à prêcher la parole et le prient de montrer par des miracles la puissance du nom de Jésus. Dieu répond aux prières que nous lui adressons avec foi, et il fortifie toujours le cœur de ceux qui s'attendent à lui. Après leur requête, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Beaucoup de miracles s'accomplissaient par le moyen des apôtres. De toutes parts, on leur apportait des malades et des gens tourmentés des esprits malins, et ils étaient tous guéris. Mais ce qui était encore beaucoup plus précieux, un grand nombre de personnes croyaient à l'Évangile et étaient ajoutées à l'Église, de sorte que l'édifice de Dieu allait toujours grandissant. Ainsi, l'effort de Satan pour arrêter la prédication de la bonne nouvelle n'avait servi qu'à manifester d'autant plus la puissance de la grâce de Dieu. Mais Satan ne se décourage pas. Et lorsque des hommes ont refusé la grâce et le salut, leur haine contre le nom de Christ ne fait que s'accroître. Le souverain sacrificateur et les sadducéens furent extrêmement irrités de ce que leurs menaces n'avaient produit aucun effet et de ce que l'Évangile se répandait de plus en plus. Ils firent saisir et mettre en prison non plus seulement Pierre et Jean, mais tous les apôtres. Ainsi se réalisait la parole du Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 15, verset 20. Mais Dieu veillait sur ses fidèles serviteurs. Il voulait leur donner un témoignage public qu'il était avec eux. Il envoya un ange qui, de nuit, ouvrit les portes de la prison et dit aux apôtres d'aller dans le temple annoncer la précieuse parole de Dieu qui produit la vie dans l'âme qui la reçoit. Les apôtres n'eurent pas peur de retourner parler en public, là où ils savaient que leurs ennemis les trouveraient aisément. Ils avaient Dieu avec eux, et ils se rappelaient que Jésus a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. » Luc 12, verset 4. Aussi, dès le point du jour, Il s'empresse d'aller dans le temple pour annoncer l'Évangile. C'était la joie de leur cœur de faire connaître le Sauveur. Il n'y a pas de bonheur comparable à celui d'être avec Jésus, de vivre pour lui et d'annoncer ses vertus. Pendant ce temps, leurs ennemis s'étaient rassemblés et avaient envoyé chercher les apôtres à la prison. Mais représentons-nous quels durent être leur étonnement et leur perplexité quand ceux qu'ils avaient envoyés vinrent leur dire qu'ils avaient trouvé les portes de la prison bien fermées et les gardes aux portes, mais que la prison était vide. Quelle plus grande surprise encore quand on vint leur dire que les apôtres enseignaient le peuple dans le temple. N'auraient-ils pas dû être frappés dans leur conscience et reconnaître là le doigt de Dieu? Mais comme le pharaon d'autrefois, ils s'étaient endurcis, rien ne les touchait, et ils firent comparaître devant eux les apôtres, auxquels ils reprochèrent leur prétendue désobéissance, en les accusant de vouloir faire venir sur eux le sang de cet homme qu'ils n'osent nommer, c'est-à-dire Jésus. On le voit, la crainte s'emparait du cœur de ces méchants hommes. Ils avaient crié quelque temps auparavant en demandant que Jésus fût crucifié, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Maintenant, ils tremblent à la pensée que cela pourrait s'accomplir, et, en effet, quelques années plus tard, le sang de Jésus fut redemandé à cette nation rebelle. Aux reproches qui leur étaient adressés, Pierre et les apôtres firent cette réponse si simple et si belle que nous devrions avoir aussi dans nos cœurs, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Mais Pierre, en même temps, rend encore une fois témoignage à la mort de Jésus que les Juifs avaient crucifié, et aussi à sa résurrection que Dieu avait opérée par sa puissance. Encore une fois, il leur présente Jésus comme établi de Dieu pour être prince et sauveur, et donner à Israël la rémission des péchés. Et il leur dit, « Nous lui sommes témoins de ces choses, et l'Esprit Saint qui avait été répandu, et par qui étaient accomplis tant de miracles, en rendait aussi témoignage. » Les ennemis des apôtres n'avaient rien à répondre. Aussi, dans leur rage, ils auraient voulu les faire mourir. Mais le temps n'était pas encore venu pour eux de donner leur vie pour Jésus. Et Dieu, qui tient tout dans sa main, se servit cette fois pour les délivrer de la sagesse humaine de l'un d'entre eux, Gamaliel, un savant docteur que Paul mentionne aussi. Acte 22, verset 3.
Je suis juif, né à Tarse de Cilicie, mais élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel selon l'exactitude de la loi de nos pères.
Cet homme, honoré de tout le peuple, conseilla au Sanhédrin de ne pas s'opposer aux apôtres, parce que, peut-être, ce que ceux-ci disaient venait de Dieu, et qu'ainsi ils auraient fait la guerre à Dieu. C'était un conseil de prudence. Et Dieu fit que le Sanhédrin le suivit. Cependant, les ennemis des apôtres avaient trop de haine dans le cœur pour les laisser aller ainsi. L'homme sans Dieu est rempli d'injustice, et, sans avoir rien trouvé de coupable chez les apôtres, ils les firent battre avant de les renvoyer. Pourquoi? Ils assouvissaient ainsi leur haine et pensaient, sans doute, les remplir de crainte et obtenir d'eux qu'ils cessassent de parler au nom de Jésus. Leur attente fut bien trompée. Les apôtres se retirèrent pleins de joie d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Ils se rappelaient les paroles de leur divin maître. « Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera et qu'on dira, en mentant, toute espèce de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux, car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant vous. » Matthieu 5, versets 11 et 12. Aussi, bien loin d'être découragé, il ne cessait, avec un nouveau zèle, d'annoncer Jésus en public dans le temple et en particulier dans les maisons. Ainsi se terminèrent les premiers efforts de Satan et de ses instruments contre l'assemblée. Ils s'étaient attaqués à ceux qui étaient à la tête. Nous verrons plus loin d'autres combats que l'ennemi livra aux disciples du Seigneur. Jésus a dit, « Vous avez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. » Jean 16, verset 33. Puissions-nous être aussi de bons et fidèles soldats de Jésus-Christ. La vie des premiers chrétiens. Avant d'aller plus loin dans l'histoire de l'Assemblée, je voudrais dire un mot de la vie des premiers chrétiens. La puissance du Saint-Esprit qui habitait en eux ne se manifestait pas seulement par le don des langues et par des miracles. Elle agissait sur les cœurs et produisait dans les croyants une vie céleste qui se montrait au dehors par ses fruits excellents. C'était, pour le monde, un témoignage plus puissant que les miracles qu'opéraient les apôtres. De nos jours, il n'y a plus de miracles, mais les chrétiens et même les enfants sont appelés, comme autrefois, à manifester dans leur conduite les mêmes fruits, puisqu'ils possèdent aussi la vie de Christ par le Saint-Esprit. Quatre choses caractérisaient les premiers croyants. La première, c'est qu'ils s'en tenaient uniquement aux enseignements des apôtres. Ceux-ci avaient été envoyés par le Seigneur pour annoncer ce qu'il avait fait et enseigné pendant son passage ici-bas. Le Saint-Esprit le rappelait à leur cœur. De plus, il leur révélait les vérités du salut, ce qui concerne le Seigneur Jésus et son œuvre de grâce. Ce que le Saint-Esprit leur enseignait, les apôtres le communiquaient aux fidèles, et ceux-ci persévéraient dans cette doctrine, en laissant de côté les traditions et les enseignements des hommes. Les apôtres ne sont plus ici-bas, mais Dieu a pris soin que leur doctrine nous fût conservée dans les écrits du Nouveau Testament, et nous avons à nous y attacher, comme les premiers disciples le faisaient, en demandant au Seigneur de nous faire comprendre ces saintes vérités, et de les appliquer à nos cœurs par le Saint-Esprit. En second lieu, les premiers chrétiens persévéraient dans la communion des apôtres. On est en communion avec quelqu'un quand on a les mêmes pensées, les mêmes affections et les mêmes sentiments que cette personne. Alors aussi, on agit ensemble en tendant vers un même but. L'apôtre Jean écrivait aux chrétiens, « Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » 1 Jean 1, verset 3. C'était donc les pensées et les sentiments du Père à l'égard de son Fils bien-aimé, et ceux de Jésus à l'égard de son Père qui, par le Saint-Esprit, remplissaient l'esprit et le cœur des apôtres. Et les disciples, qui avaient appris d'eux à connaître le Père et le Fils, avaient les mêmes pensées et les mêmes sentiments qu'eux. C'étaient des pensées divines et des affections saintes qui remplissaient leurs âmes de joie. Chacun de nous peut jouir de cette communion et du bonheur qui en résulte si nous avons reçu Jésus comme Sauveur, car Dieu est alors notre Père. Une troisième chose dans laquelle persévéraient les fidèles et qui était un témoignage de leur communion mutuelle, c'était la fraction du pain, c'est-à-dire la célébration de la scène du Seigneur. Nous savons que le Seigneur Jésus, avant de monter au ciel et la nuit même où il fut livré, institua la scène comme un mémorial de ses souffrances et de sa mort pour la rédemption des siens. C'est le gage de son grand amour pour eux, amour plus fort que la mort. Les croyants à Jérusalem étaient ensemble à la table du Seigneur, comme rachetés par son précieux sang et membres d'une même famille, se souvenant d'un même cœur de celui qui les avait aimés et sauvés. Les rachetés du Seigneur continuent à célébrer la scène et le feront jusqu'à son retour. Alors ils seront avec lui, ils le verront lui-même, il n'y aura plus besoin d'un mémorial. Quelle joie devrait remplir nos cœurs à la pensée d'être un jour dans le ciel et de contempler l'agneau qui a été immolé. Enfin, les premiers chrétiens persévéraient dans la prière. La prière suppose que nous connaissons notre faiblesse, notre impuissance et le besoin que nous avons de la grâce et du secours tout-puissant de notre Dieu. Elle suppose donc notre dépendance de lui et la confiance en lui, la certitude qu'il nous écoute et veut nous exaucer. Dans la prière, on s'approche de Dieu tout simplement pour lui exposer ses besoins. On le prie, et en particulier, et dans la famille, et dans l'assemblée. Il nous est recommandé de prier sans cesse, d'exposer nos requêtes à Dieu, et le Seigneur lui-même, qui, lorsqu'il était ici-bas, priait son Père, nous encourage à demander en son nom, nous promettant que tout ce que nous demanderons ainsi, il le fera. 1 Thessaloniciens 5, verset 17.
Priez sans cesse.
Philippiens 4, verset 6.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Jean 14, verset 13.
Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tels étaient les traits caractéristiques de la vie intime des premiers chrétiens et le mobile secret de leur vie au dehors. La puissance de Dieu manifestée par les miracles produisait de la crainte parmi le peuple, mais la vie sainte des disciples agissait sur les âmes pour les attirer à Christ. Comme il n'y avait dans le cœur des disciples qu'un seul et même sentiment, une seule et même pensée, un seul et même amour, comme ils réalisaient le fait qu'ils étaient enfants du même Dieu et Père, et rachetés du même Sauveur, ils étaient heureux de se rencontrer ensemble, de se trouver réunis, de persévérer ensemble d'un commun accord dans le temple, montrant ainsi devant le monde qu'ils étaient un dans le Père et dans le Fils, comme le Seigneur Jésus l'avait demandé à son Père. Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoyé.
Cette vie d'union et d'amour était un puissant témoignage rendu afin que le monde crût que Dieu avait en effet envoyé son Fils ici-bas. Hélas, cette manifestation visible de l'unité de la famille de Dieu sur la terre n'existe plus. L'ennemi a réussi à la ruiner. Elle ne sera plus vue que dans la gloire, quand Jésus paraîtra avec ses rachetés, et que le monde connaîtra qu'ils étaient aimés comme Jésus lui-même. Jean 17, verset 23.
Afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mais nous n'en avons pas moins le devoir d'aimer tous les enfants de Dieu, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, il est menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?
L'égoïsme avait disparu du cœur de ces premiers chrétiens. Ce qui était à l'un était aussi à l'autre. L'attachement au bien de la terre, si puissant chez les Juifs, n'existait plus. Les fidèles avaient des biens plus excellents, des biens célestes et permanents. Ils ne pouvaient supporter la pensée que quelqu'un des membres de la famille de Dieu pût souffrir dans le besoin, quand eux-mêmes étaient dans l'abondance. Ils vendaient donc leurs possessions et leurs biens, et le produit en était distribué aux nécessiteux. L'apôtre Jean disait plus tard, « Celui qui a les biens de ce monde, qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» 1 Jean 3, verset 17. En ces premiers et heureux temps, l'amour de Dieu avait toute sa place dans le cœur des croyants. Il était en eux, dans toute sa fraîcheur et sa puissance, et ils comprenaient la réalité de cette parole, « Celui qui aime Dieu aime aussi son frère ». C'était le temps du premier amour. Demandons à Dieu de le connaître aussi. Quel spectacle ce devait être pour les pharisiens avares, pour les sadducéens amis des plaisirs de ce monde, pour tous ces riches égoïstes attachés aux biens et aux voluptés de la terre. Il voyait là des gens qui avaient été comme eux amateurs du monde et qui maintenant renonçaient à tout pour venir en aide aux autres. Il les voyait n'être qu'un cœur et qu'une âme. Il n'y avait point de nécessiteux parmi eux. Celui qui possédait pourvoyait aux besoins de celui qui n'avait pas. Et c'était la puissance du nom de Jésus qui accomplissait cette merveille de grâce, qui produisait ce réel amour. Quelle différence avec ce que l'on voit de nos jours dans la chrétienté. Et tout se passait avec l'ordre qui convenait à la maison de Dieu. Ceux qui avaient vendu leurs biens n'en donnaient pas le produit à droite et à gauche, selon leur propre pensée. Ils venaient le confier aux apôtres qui étaient alors seuls à la tête de la communauté chrétienne, et ceux-ci, selon la sagesse que Dieu leur avait donnée par le Saint-Esprit, le faisaient distribuer à chacun de ceux qui avaient quelque besoin. Dieu s'est plu à nous conserver dans sa parole les noms de quelques-uns de ceux qui ont servi fidèlement son Fils bien-aimé. Le Seigneur a dit, « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Jean 12, verset 26. Parmi ceux qui renonçaient à leurs richesses en faveur des pauvres, le Saint-Esprit cite un lévite de l'île de Chypre, Joseph, que les apôtres surnommèrent Barnabas, mot qui veut dire « fils de consolation ». Pourquoi fut-il nommé ainsi? L'Écriture ne le dit pas, mais les apôtres, en lui donnant ce nom, avaient sans doute vu combien son exemple avait été un encouragement pour l'assemblée. Nous retrouvons plus tard ce serviteur de Christ, mais ne nous fait-il pas souvenir d'un autre lévite qui, voyant un blessé demi-mort sur son chemin, passa outre sans le secourir? C'était l'image de la loi impuissante pour sauver l'homme perdu par le péché. En Barnabas, nous voyons ce qu'opère la grâce. Il avait appris à connaître Jésus qui, étant riche de la gloire du ciel, avait renoncé à tout pour nous sauver, et comme son divin maître, Barnabas vend tous ses biens pour secourir les pauvres. Puissions-nous apprendre à délaisser notre égoïsme naturel et, sur les traces de Jésus et de ses premiers disciples, faire du bien aux autres selon nos forces? Peut-être cette question surgira dans quelque esprit. Les chrétiens de nos jours sont-ils aussi appelés à vendre leurs biens pour en distribuer le prix aux pauvres? La parole de Dieu n'établit nulle part cela comme une règle à suivre. C'était spontanément que les premiers chrétiens le faisaient. Dieu a voulu montrer par là, d'une manière palpable, la puissance du Saint-Esprit dans le cœur, et en même temps le principe qui, à toutes les époques, doit animer la vie des chrétiens. Le même esprit d'amour, de renoncement et de dévouement devrait être dans nos cœurs et se montrer dans nos sentiments et nos actes envers les autres. Ce que l'apôtre Jean écrivait est aussi pour nous. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre. Enfants, n'aimons pas de paroles, ni de langue, mais en action et en vérité. 1 Jean 4, verset 7 et 3, verset 18. L'apôtre Paul dit à son disciple Timothée d'ordonner aux riches non de vendre leurs biens, mais de n'être pas hautains, de ne pas mettre leur confiance dans les richesses instables, mais en Dieu qui les donne, de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, prompts à donner et libéraux. 1 Timothée 6, verset 17 à 19.
Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir, qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner, libéraux, s'amassant comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie.
Nous voyons aussi en divers endroits de l'Écriture que plus tard l'on faisait des collectes parmi les chrétiens pour venir en aide aux pauvres, de sorte que ce qui eut lieu à Jérusalem au tout premier temps de l'Assemblée fut une manifestation unique et éclatante de l'effet produit par l'amour divin dans le cœur. Cette manifestation était tout particulièrement nécessaire au milieu d'un peuple attaché à la terre, comme l'étaient les Juifs. Il fallait leur montrer qu'à un Christ et un Seigneur céleste se rattachait un peuple animé d'une vie céleste. La vie de ses premiers disciples était une preuve évidente que Jésus était en haut et répandait dans les âmes la vie d'en haut. Tout cela était en opposition avec les espérances juives d'un Messie terrestre et des jouissances d'ici-bas. Demandons à Dieu que cette même vie céleste se montre en nous. Telle était donc la vie des premiers chrétiens, ayant pour mobile l'amour pour Christ qui les avait sauvés. Il en résultait une joie et une simplicité de cœur qui se montraient dans tous les détails de leur vie journalière, même dans leurs repas. Rien n'est indifférent dans la vie d'un chrétien. Il fait tout avec Dieu et pour Dieu. L'apôtre Paul le dit. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Le chrétien rend grâce pour sa nourriture comme lui étant donnée de Dieu. Il la reçoit avec joie de la main de son bon Père céleste, sur lequel il compte pour le pain de chaque jour. Rien n'est doux comme de jouir de tout avec Dieu. Un autre résultat de cette vie avec Dieu était la louange qui débordait de leur cœur envers le Dieu de toute grâce. Ils rendaient grâces en toutes choses, comme nous sommes aussi exhortés à le faire. Quel contraste avec leur vie d'autrefois, quand ils étaient accablés sous le lourd fardeau des ordonnances, selon les traditions des hommes, et qu'ils ne jouissaient pas de la paix avec Dieu, et ne le connaissaient pas comme leur Père. Maintenant, ils étaient heureux. Tout le peuple le voyait, et ne pouvait s'empêcher de les approuver. Leur vie sainte, dévouée et joyeuse était une prédication dont le Seigneur se servait pour sauver de nouvelles âmes et les amener dans l'assemblée. Puisse notre vie ressembler à la leur. La première introduction du mal. L'ennemi, Satan, avait attaqué l'Église par la violence en incitant les chefs du peuple contre les apôtres. Il cherche maintenant à y introduire le mal par le mensonge. Satan est menteur et meurtrier dès le commencement. Nous avons vu le dévouement et l'amour des premiers chrétiens qui, pour soulager leurs frères pauvres, vendaient leurs biens. Le nom de l'un d'eux nous a été conservé dans le livre de Dieu, c'est Barnabas. Mais l'Écriture mentionne aussi le nom de plusieurs hommes et femmes qui, par leurs péchés, ont attiré sur eux le jugement de Dieu. Car Dieu nous connaît tous, nom par nom. Il sonde les cœurs et les reins, et rend à chacun selon ses œuvres. Nous le voyons dans l'histoire de l'Assemblée. Un certain homme nommé Ananias et Saphira sa femme étaient entrés dans l'assemblée chrétienne. Ils avaient peut-être été entraînés dans ce grand mouvement de réveil qui avait lieu, et frappés par les effets merveilleux de la grâce du Seigneur, sans qu'on puisse dire si leur conscience et leur cœur avaient été touchés. Rien ne les obligeait à vendre leurs biens, mais ils voulurent se donner les apparences d'être aussi bons, aussi dévoué et aussi généreux que les autres, et Ananias apporta de l'argent aux apôtres, comme si c'était le prix entier de la vente. Mais il en gardait une partie de concert avec sa femme. Il faisait sans doute cela dans la crainte de devenir pauvre en donnant tout. Dans tous les cas, il y avait dans leur cœur et dans leurs actes avarice, hypocrisie et mensonge. Mais Ananias et Saphira, qui pouvaient tromper les hommes par une belle apparence, avaient oublié une chose. C'était la présence de Dieu dans l'assemblée, qui est l'habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Or, on ne peut tromper Dieu. L'Esprit de Dieu n'était pas présent seulement pour opérer des miracles et pour convertir les âmes, ni pour produire une vie sainte dans les fidèles, mais aussi pour découvrir le mal et le juger dans ceux qui professaient être chrétiens. Il était nécessaire que l'on vît que le Dieu saint était présent dans l'assemblée, et que tromper les apôtres, c'était mentir au Saint-Esprit et par conséquent à Dieu lui-même. L'apôtre Pierre discerne par le Saint-Esprit le mensonge et l'hypocrisie d'Ananias. Il les dévoile et montre ce qui avait entraîné ce malheureux homme à commettre ce grand péché. C'était Satan, le père du mensonge. « Pourquoi, dit Pierre, Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu aies menti à l'Esprit-Saint ? » Quelle terrible révélation pour Ananias ! Son péché est mis à nu devant tous, comme autrefois celui d'Acan. Josué chapitre 7. La puissance de Dieu saisit le cœur d'Ananias, le jugement de Dieu le frappe, il tombe mort. Ah, notre Dieu, le Dieu de grâce, est aussi le Dieu saint et un feu consumant. 3 heures après, Saphira, ignorant le jugement de Dieu sur son mari, se présente à son tour dans l'assemblée. À la question directe de Pierre, « Avez-vous donné le champ pourtant ?» elle répond sans hésiter « Oui », proférant ainsi délibérément un mensonge évident. Quel oubli ou quel mépris de la sainteté et de la présence de Dieu. Nous voyons là comment un péché en entraîne un autre plus grave. Mais le jugement ne se fait pas attendre. Pierre prononce la sentence et elle tombe morte à son tour. Ainsi, la présence du Dieu saint dans l'assemblée était rendue manifeste. Le mal y était découvert et jugé, comme autrefois dans le camp d'Israël. Aussi, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses. L'Esprit Saint, comme nous l'avons vu, agissait avec une puissance de grâce dans les cœurs des fidèles et y produisait le dévouement, l'absence d'égoïsme et le renoncement. Ananias et Saphira, avec hypocrisie et mensonge, avaient voulu faire croire qu'ils étaient animés de ces sentiments, alors que l'amour de l'argent les possédait. Dieu avait jugé ce mal et l'avait ôté de l'assemblée. Mais Satan est toujours actif contre Christ et ce qui est cher à Christ. Il avait poussé Ananias et sa femme à mentir et les avait ainsi entraînés dans la mort. Cet effort de Satan contre l'assemblée avait été détourné par la puissance de Dieu. On voyait que Dieu était au milieu des chrétiens et l'assemblée augmentait toujours en nombre. Alors l'ennemi, pour la troubler et la ruiner, s'il le pouvait, essaya d'un autre moyen. Il chercha à agir sur la mauvaise nature qui est en nous et à faire naître dans les cœurs des fidèles des sentiments contraires à la grâce, la jalousie et l'envie, par exemple, des plaintes et des murmures. Oh, combien nous avons besoin d'être en garde contre les ruses de ce redoutable ennemi, de veiller et prier, car s'il trouve la moindre ouverture, il s'empresse d'en profiter. La multitude des disciples se composait de juifs hébreux nés en Palestine et parlant la langue syriaque et de juifs hellénistes, c'est-à-dire des juifs venus de pays étrangers et qui parlaient grec pour la plupart. Ces derniers se plaignirent de ce que les veuves qui se trouvaient parmi eux étaient négligées dans les secours qui étaient distribués chaque jour, et ils murmuraient contre les juifs hébreux, et sans doute contre les apôtres eux-mêmes. Quelle triste chose quand la jalousie s'empare du cœur. Se plaindre de ses frères, murmurer contre eux, les accuser, n'est certes pas à l'honneur du nom de Jésus. Ce n'étaient pas des sentiments conformes aux siens. Ce n'était pas la douceur qui n'insiste pas sur ses droits. C'était un sentiment propre à notre nature pécheresse que la parole appelle la chair. Un sentiment charnel. Quel remède apporter à ce mal qui menaçait d'introduire des dissensions dans l'assemblée et d'en détruire la belle harmonie? La sagesse de Dieu était là, aussi bien que sa puissance pour déjouer les ruses de l'ennemi. Les apôtres ne pouvaient pas laisser le service de Dieu dans la prédication de l'Évangile pour s'occuper des besoins matériels de ceux qui avaient cru. Ils avaient besoin de leur temps pour se livrer à la prière et au service de la parole. Ces deux choses intimement unies dans la vie de tout serviteur de Dieu pour que son action soit bénie envers les âmes. L'assemblée, sous le conseil des apôtres, choisit donc 7 hommes remplis de l'Esprit-Saint et de sagesse pour veiller à la distribution des secours aux nécessiteux. Ces hommes furent présentés aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains, les recommandant ainsi à Dieu et s'unissant à eux pour l'œuvre qu'ils auraient à accomplir. Nous voyons quelle place la prière occupait dans la vie des apôtres et des premiers chrétiens, comme aussi dans celle de notre adorable Sauveur. Puisse-t-elle occuper aussi une grande place dans notre vie? L'Esprit-Saint nous a conservé les noms de ces 7 hommes que l'on nomme souvent les diacres, d'un mot grec qui signifie « serviteur ». Ces noms, qui sont grecs, nous apprennent qu'ils étaient tous des hellénistes, ce qui montre l'esprit de grâce et de condescendance qui était dans l'assemblée. C'était aussi un fruit produit par l'Esprit-Saint. La ruse et l'effort de Satan étaient mis de nouveau à néant. Il allait bientôt montrer sa rage et livrer de nouveaux combats contre Christ et l'assemblée. Mais n'oublions jamais qu'en regardant à Christ, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Sa puissance, sa sagesse et son amour déjouent et annulent tous les efforts de l'ennemi.